Les colloques du Collège de France.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Je laisse à aux derniers arrivants le temps de s'installer et on va pouvoir commencer cette deuxième journée de notre colloque Pouvoir et culture écrite en Haute Mésopotamie. Et j'accueille sans plus attendre le professeur Sophie Desmarlafon de l'Université Paris Panthéon-Assas pour une communication intitulée « Pourquoi et pour qui écrit-on le droit en Mésopotamie ?»
Merci beaucoup. Et je suis ravie de participer à ce colloque. Je regrette de ne pas avoir pu entendre les communications d'hier, mais je les verrai en ligne bientôt. J'ai mis un sous-titre à ma communication, dont le titre était quand même très large. Donc je voudrais vous livrer quelques réflexions sur les formulations du droit au deuxième millénaire avant notre ère. Si les Sumériens ont inventé l'écriture, il est logique de supposer qu'ils ont également inventé l'écriture du droit. De fait, les plus anciens textes juridiques en cunéiforme remontent, on le sait, à l'époque pré-sargonique, qui a livré de nombreux contrats de vente, de terres et d'esclaves. Mais cette longue pratique ne doit pas faire oublier que le droit mésopotamien est avant tout oral. Nous avons donc accès seulement à une petite partie de la culture juridique cunéiforme, celle qui a survécu dans les tablettes d'argile et les inscriptions monumentales. La raison pour laquelle ces textes ont été rédigés dépend de leur nature, qui elle-même est déterminée par des critères formels. Ces critères formels identifient le contenu et les destinataires des textes. Faute de manuels ou de traités de doctrine, le formalisme reste le seul élément de classification des sources, préalable indispensable à leur interprétation. Le droit est en effet avant tout un art du rangement. Les juristes commencent toujours par chercher à quelle étiquette correspond une situation donnée. Ils puissent aujourd'hui dans les définitions et les concepts transmis par les Romains qui n'ont pas d'équivalent au Proche-Orient ancien où les mots de la loi, du contrat ou du jugement sont très ordinaires. Et c'est l'agencement de ces termes dans un énoncé casuistique ou dans un formulaire qui indique l'appartenance à la sphère juridique. Les Mésopotamiens pensaient et donc rangeait le droit autrement, et c'est à travers les illustrations pratiques qu'ils nous ont laissées que nous pouvons apercevoir les catégories implicites qu'ils mettaient en œuvre. La forme la plus répandue de rédaction du droit est l'énoncé conditionnel, qui est aussi utilisé dans d'autres sciences, notamment la médecine et la divination. C'est typiquement, quoique non exclusivement, le style de rédaction des lois, mais on le trouve aussi dans les contrats et dans les lettres de l'administration royale. Ce langage d'expert se caractérise, on le sait, par un balancement entre une protase au conditionnel, introduite par la conjonction « si »,« tukumbi » ou « shumma », suivie d'une apodose à l'indicatif. Et donc vous avez ici deux exemples, à gauche un exemple tiré du code de Lipitishtar avec Tukumbi, si un homme coupe un arbre dans le verger d'un autre homme, il payera un tiers de mine d'argent, et un exemple dans le paragraphe le plus court, je crois, du code de Hammurabi, si un homme, Shumma, a volé le petit enfant d'un autre homme, il sera tué. En dépit des apparences, le style casuistique ne décrit pas des cas fictifs ou imaginaires. Quand on veut décrire une fiction juridique en Mésopotamie, on la présente toujours comme une vérité sur un mode assertif. L'adopté, par exemple, est le fils des parents adoptifs. C'est ce que dit la première clause de ce texte de Marie, ARM 8.1, Yahati, elle, est le fils de Rilaloum et le fils d'Alitoum. De la même manière à Emar, l'épouse du testateur est père et mère de sa maison et sa fille est établie, homme et femme. Dans ce testament, par exemple, il s'agit de Rebatté, mon épouse, elle est père et mère de ma maison. Voici que Al-Khati, ma fille, je l'ai établie comme femme et homme. La parole performative donne ainsi réalité à des situations qui n'existent pas, ou du moins qui n'ont jamais été constatées, dont on n'a jamais prouvé qu'elles ne pouvaient pas exister. Inversement, la casuistique introduit une incertitude qui tient aux circonstances elles-mêmes, ou bien au moment où ces circonstances se produiront. La rédaction conditionnelle apparaît ainsi comme une projection du présent dans le futur. Et surtout, pour les juristes, elle a le mérite d'opérer une séparation claire entre les faits qui sont décrits dans la protase et la solution juridique qui est exposée dans la podose. La règle de droit est donc clairement identifiée en tant que telle, quoique en termes concrets, et non sous la forme de principes généraux. Je voudrais commenter ici quelques illustrations de ces énoncés conditionnels au deuxième millénaire, mis en regard avec d'autres formes d'expression écrite du droit. La casuistique législative a été longuement analysée depuis longtemps et je ne l'évoquerai ici que de manière incidente. Je voudrais plutôt examiner des exemples tirés des actes de la pratique et de la correspondance royale en essayant de cerner la pensée juridique sous-jacente. Et je commence donc par les actes de la pratique. L'énoncé conditionnel est couramment utilisé dans le champ du droit de la famille, dans les clauses pénales des contrats de mariage et d'adoption, sur le modèle « si un tel dit ou fait ou ne fait pas quelque chose, alors voilà ce qui se passera ». Voici deux exemples. À gauche, le même contrat d'adoption, ARM 8.1. Si Rilaloum, son père, et Alitoum, sa mère, disent à Yahati, elle, leur fils, « Tu n'es pas notre fils », ils perdront la maison et les biens. Si Yahati, elle, dit à Rilaloum, son père, et Alitoum, sa mère, « Tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère », ils le raseront et ils le vendront. Et à droite, un contrat de mariage de 6 parts. La clause pénale envisage d'une part le cas où Sabitoum dit à son mari Waradkoubi, tu n'es pas mon mari, ils la ligoteront et la jetteront dans l'eau. Inversement, si Waradkoubi dit à son épouse Sabitoum, tu n'es pas mon épouse, il payera une tierce de mine d'argent pour son prix du divorce. Donc la protase envisage la rupture du contrat et la podose prévoit le paiement d'une somme d'argent ou une peine corporelle qui peut aller jusqu'à la mort. Dans ces clauses, la conjonction « si » shumma n'exprime pas une conjecture, mais en réalité une certitude. Et c'est pour ça qu'elle est parfois remplacée par « le jour où » que vous voyez à droite dans ce contrat de mariage TIM 447, où shumma est remplacé par donc le jour où il Ishum Natsir dira à Nutuptum, etc. Et inversement, le jour où Nutuptum dira à Ishum Natsir, etc. Donc la sanction dans ces cas sera appliquée automatiquement sans recourir au juge, avec éventuellement un rachat du châtiment corporel si l'offensé l'accepte. La formulation est très différente dans les contrats qui enregistrent des transferts de biens, en particulier dans les ventes. La clause de rupture est rédigée sur un mode relatif, avec une figure de style qui combine le participe et la forme conjuguée du même verbe. Voici deux exemples avec le verbe « ragamoum » et avec le verbe « bakaroum ». Et vous voyez que dans la clause de revendication, celui qui revendiquera, littéralement le revendiquant qui revendiquera, « ragim i ragamou » ou « bakir i bakarou », alors dans un cas, payera 10 mines d'argent et sa langue sera arrachée, dans l'autre cas, il payera une mine d'argent. Cette formulation différente, relative, est sans doute liée à l'absence de verba solemnia dans ce type de conventions, qui sont conclues par la remise du prix et non par l'échange de paroles. Cette remarque reste valable pour les occurrences de l'expression Ragim Iragamu ou Bakir Ibakaru dans les contrats de mariage ou d'adoption qui contiennent toujours implicitement ou explicitement des aspects patrimoniaux qui sont liés au nouveau statut des protagonistes. Donc remise de dot, remise de don nuptial ou droits successoraux font l'objet de cette clause avec Bakarum ou Ragamum. Ces deux verbes, Bakarum et Ragamum, renvoient à une action en justice engagée par l'une des parties ou un membre de leur famille. Donc, pour contester un transfert de biens, il faut engager une procédure, alors que pour mettre fin à un statut, une simple déclaration orale suffit. La comparaison entre... Ah, non. Vous auriez dû avoir... La voilà. Une slide sur... Donc, la comparaison entre ces deux types de clauses, conditionnelles et relatives, conduit à deux observations. Tout d'abord, les clauses pénales conditionnelles s'analysent sur le principe du parallélisme des formes. Le mariage ou l'adoption suppose de prononcer des phrases rituelles. Tu es ma femme, tu es mon mari, tu es mon fils, tu es ma fille, etc. Ces phrases ne sont pas mentionnées dans la partie opératoire du document, mais elles réapparaissent sous une forme négative dans la clause pénale. Ensuite, au-delà de cet aspect formel, les énoncés casuistiques et relatifs différencient juridiquement les effets de la rupture du contrat selon qu'on touche au statut des personnes, et ça c'est la formulation conditionnelle, ou qu'on touche au droit des biens, et c'est l'énoncé relatif. Le sort des personnes est négocié par les familles qui déterminent la sévérité de la sanction sans aucun contrôle extérieur. Le sort des biens est décidé par les juges qui tranchent objectivement sur la base des preuves rapportées par les parties. En apprenant le formulaire des clauses des contrats, les scribes apprenaient donc aussi cette classification majeure pour les juristes, qu'est la distinction entre personne et bien, ainsi que les voies de droit applicables en cas de rupture contractuelle. J'en viens maintenant à la correspondance royale, et je voudrais regarder trois aspects. La gestion des affaires courantes, ensuite la gestion des cas compliqués et pour terminer, la gestion des cas particuliers. Donc, pour commencer, la gestion des affaires courantes. Les problèmes administratifs ou judiciaires étaient souvent soumis au roi qui répondait généralement de faire une enquête puis d'agir en conséquence. Par exemple, dans cette lettre de Hammurabi à Shamash-Razir, concernant un maraîcher dont la terre familiale a été confisquée au profit d'un soldat, le roi s'écrit « Depuis quand un champ ayant un statut permanent peut-il être confisqué ? Fais une enquête et si ce champ appartient bien à la maison de son père, rend ce champ à Sin Ishmeani, le maraîcher. » Il y a donc ici l'expression d'une règle de droit, mais sous une forme assez prosaïque et qui sonne comme le rappel indigné d'un principe que tout dignitaire devrait connaître, donc Shamash-Razir aussi. Alternativement, le roi peut aussi énoncer un cas et son contraire sous la forme « si, sinon ». Comme le montre cet extrait d'une autre lettre, d'une lettre de mari envoyée par Zimrilim à son épouse Shiptou à propos du statut d'une jeune fille. Il s'agit de vérifier la rumeur selon laquelle elle serait une prêtresse d'Addou. Le roi ordonne d'abord de faire une enquête et ensuite il dit si elle est bien une prêtresse d'Addou et qu'elle se plaint, fais-la sortir du palais et qu'elle séjourne dans la maison d'Ibaladou, qui est son père. Si, au contraire, cette jeune fille ne se plaint pas, qu'elle séjourne dans le palais et qu'on lui donne une garde. Alors, dans ces deux cas, on voit que la phrase conditionnelle fonctionne comme une sorte de mode d'emploi. Le roi indique par avance les résultats attendus de l'action à mener en se basant sur des considérations matérielles précisément décrites. Les réponses qu'il donne sont limitées aux cas qui lui sont soumis et elles illustrent le quotidien de la pratique administrative. Voyons maintenant la gestion des cas compliqués ou disons délicats. Ces cas sont compliqués ou délicats parce qu'ils ont une résonance politique ou sociale particulière et qu'ils nécessitent une intervention marquée, affirmée, tant sur la forme que sur le fond du droit. Pour trancher ces situations difficiles, le roi utilise le style apodictique, comme dans cette lettre de Samsu Iluna, envoyée au gouverneur de Lidamarat, Ibisharhan. Le roi affirme « Personne ne doit acheter un homme ou une femme ressortissant de Lidamarat ou d'Arapra à des soutéens. » L'interdiction qui est posée ici répond aux inquiétudes du roi d'Eshnouna, comme l'a montré Michael Guichard, inquiétudes face aux raids répétées des soutéens dans la région, mais elle vise aussi à lutter contre le fléau du trafic humain. Le même type de formulation est attesté dans le rescrit de Samsu Iluna, qui est adressé aux autorités de Sipar à propos de l'entrée dans le cloître de religieuses naditum qui ne sont pas dotées. Et la réponse du roi est formulée sous cette forme assertive. « J'ai ordonné de ne pas laisser entrer dans le cloître une naditum qui n'est pas entretenue par sa famille. » Et pour la naditum qui réside dans le cloître alors que son père et ses frères ne l'entretiennent pas et ne lui ont pas écrit de tablette, j'ai ordonné de faire pression sur son père et ses frères pour écrire une tablette et la faire entrer au cloître. Dans ces deux cas, l'ordre direct n'est pas d'application universelle. Il vise un segment bien défini de la population, les habitants d'une région, les habitants de Lidamarat, ou les religieuses naditum. L'objectif est d'apporter une réponse rapide à un problème urgent et par la même occasion d'invalider les actes juridiques contraires aux dispositions royales. La vente de personnes libres enlevées par les soutéens est déclarée nulle ipso facto et la religieuse sans dot ne pourra pas entrer au cloître sans qu'il soit besoin d'argumenter davantage. Ces paroles impérieuses sont donc des actes d'autorité en même temps que des mesures de caractère juridique. J'en viens au troisième volet de cette analyse de la correspondance royale, la gestion des cas particuliers, et je voudrais me pencher ici sur la question de l'épouse de l'absent. Les lettres, et notamment celles de Marie, se font souvent l'écho de questions traitées par les recueils législatifs. Et ces lettres mettent ainsi en perspective, souvent d'une manière éclairante, des aspects décrits d'une manière plus générale dans les codes. Et je voudrais ici faire un rapprochement entre une lettre de Marie éditée par Nelle Ziegler, tirée du dossier des musiciens, et un texte très postérieure, tirée des lois assyriennes. Il y a une longue distance chronologique entre ces deux sources, mais il me semble que les situations qui sont considérées et les solutions qui ont été retenues méritent d'être comparées. Voyons d'abord la lettre. Elle est envoyée à Yasmaradou par Ibi Ilabrat, chef de la musique de Samsu Iluna à Shubat Enlil. Et elle évoque un problème récurrent, celui de la fuite des musiciens qui quittent la vie apparemment austère de la capitale pour aller s'installer à Mari, apparemment ville beaucoup plus animée et beaucoup plus attractive. Donc c'est précisément ce qu'a fait Lipit Enlil qui est au cœur de cette lettre. Lipit Enlil avait bénéficié des largesses de la cour grâce à Ibi Ilabrat qui lui avait fait attribuer un domaine et une épouse à Shubat Enlil. Mais Lipit Enlil a manifestement dilapidé tous ses biens et il a quitté femme et enfant pour rejoindre Marie. Une fois sur place, il tente d'obtenir de Yasmaradou le même traitement de faveur que celui qu'il avait à Shubhatenlil, et il prétend, vous voyez, c'est le premier paragraphe, le deuxième, pardon, il prétend que sa famille est retenue à Shubhatenlil. Donc, il va se plaindre auprès de Yasmaradou en essayant de se faire passer pour la victime d'une situation qui lui est préjudiciable. Mais en réalité, dit Ibi Ilabrat, dans la phrase qui suit, Lipitenlil est parti de son propre mouvement. Il s'est levé et il est parti. Et sa famille a dû être prise en charge par le palais. Et c'est ce point qui m'intéresse. Ibi Ilabrat dit « J'ai amené sa femme et ses enfants au palais et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont cessé de recevoir des rations de grains, d'huile et de laine. » Et précisément, cette déclaration est confirmée par, un peu plus loin, la déclaration que fait l'épouse de Lipitenlil en réponse à Ibi Ilabrat, qui l'a convoquée. « À présent, j'ai convoqué son épouse en présence du messager de Monseigneur, et je lui ai dit, où sont donc la domesticité, le gros bétail, les ânes et les moutons que ton époux t'avait laissé ?» Et elle a répondu, « Il ne m'a rien laissé. » Donc, soit il avait tout dépensé, soit il est parti avec tout ce qui lui avait été confié pour sa fonction et son statut de musicien. Donc, Ibi Ilabrat explique qu'il va envoyer cette épouse à Yasmaradou pour qu'elle répète sa déclaration. Il le fait par respect, mais il est établi d'ores et déjà par cette simple déclaration que l'épouse de Lipitenlil a été laissée sans ressources. Et c'est ce point qui m'intéresse ici parce que l'entretien de l'épouse abandonnée et de ses enfants est assuré par les autorités publiques parce que le fugitif était lui-même indépendant du palais. Un cas comparable est décrit au paragraphe 45 des lois assyriennes à propos de l'épouse du prisonnier de guerre. Elle doit attendre son mari pendant 2 ans avant de se remarier. Mais, dit la fin du premier paragraphe, si pendant ces 2 ans il n'y a pas de quoi manger, elle viendra le déclarer. Ensuite, le texte, au paragraphe suivant, détermine qui sera chargé d'entretenir l'épouse selon sa condition personnelle. Malheureusement, une cassure nous empêche de savoir qui s'occupera de la résidente du palais, donc quelqu'un la fera manger et elle travaillera pour lui, et de même, on ne sait pas qui s'occupera de l'épouse d'un mercenaire. Mais ce qui est clair, c'est que l'une et l'autre doivent travailler pour rembourser les frais de leur prise en charge. Une troisième catégorie d'épouses est envisagée, sans doute. Il y a une restitution, et j'ai suivi la restitution de Driver et Miles ici. Cette troisième catégorie concerne l'épouse d'un dépendant du palais, qui donc détenait un champ et une maison de service. Manifestement, l'épouse ne peut pas conserver le champ et la maison de service de son mari absent, mais elle peut quand même obtenir le soutien des autorités. Elle doit donc aller trouver les juges. Elle viendra le déclarer au juge en disant « je n'ai plus rien à manger ». Et les juges, une fois avertis de cette situation, doivent lui attribuer une tenure équivalente pour assurer son entretien pendant 2 ans. Ils réserveront un champ et une maison pour son entretien pendant 2 ans et les lui délivreront. Elle y résidera et ils rédigeront sa tablette. Si on compare maintenant les 2 documents de Marie et d'Achour, on constate d'abord une réelle attention portée au sort des épouses abandonnées par leur conjoint lorsqu'il s'agit d'un proche du palais. Dans les 2 cas, les pouvoirs publics se substituent au mari pour assurer l'obligation d'entretien qui, en principe, lui incombe. Il y a cependant des différences entre ces 2 textes sur quelques points. Le premier concerne l'absence du mari. qui est involontaire dans les lois assyriennes, puisqu'il s'agit d'un soldat capturé par l'ennemi, et qui est volontaire pour Lipit-Enlil, qui cherche manifestement une vie plus festive. Le principe d'un soutien financier semble pourtant acquis à la famille dans les deux cas, ce qui paraît indiquer que les motifs de l'absence n'entrent pas dans les critères d'éligibilité de l'allocation. La deuxième différence tient à la nature de l'aide apportée. À Marie, l'épouse reçoit des rations. À Achour, elle vit des revenus d'une terre, ce qui est peut-être plus avantageux. Mais dans les deux cas, cette aide financière est versée sans contrepartie et elle est déclenchée par une simple déclaration d'un état de nécessité. Enfin, une troisième différence est liée à la durée de l'aide publique qui est limitée à 2 ans dans les lois assyriennes. La lettre de Marie ne dit rien à ce sujet parce que son principal objet est d'alerter Yasmaradou sur la duplicité du musicien et non pas dénoncer les droits de l'épouse abandonnée. Malgré ces différences, on voit que l'abandon volontaire ou forcé des femmes mariées était un phénomène manifestement récurrent face auquel les autorités publiques répondaient par des formes de solidarité qui font écho au thème bien connu de la protection des misérabilès personae. Il y a ainsi en Haute Mésopotamie un droit substantiel pérenne qui s'exprime sous des formes diverses mais reflète des invariants de la pensée juridique mésopotamienne. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.